Bah, d'abord, pour des raisons on va dire, historiques, puisque vous en avez un petit peu parlé, le jeu vidéo au début n'était pas une pratique qui est née en tant que telle, mais qui est née à côté d'autres pratiques. Et un de ces à côté, ou une de ces choses dont le jeu vidéo a été issu, parmi d'autres, c'est la littérature. Et donc, il y a au cours de l'histoire de nombreux moments où des gens qui étaient plutôt d'inspiration littéraire, plutôt des auteurs, je pense au groupe Alamo qui dérive du groupe Oulipo qu'on connaît autour de Raymond Queneau en France, par exemple, mais il y a énormément d'autres exemples, ils ont commencé à s'intéresser ou à des processus ludiques autour de l'ordinateur qui ont vite dérivé vers ce qu'on appelle maintenant du jeu vidéo, mais qui ne s'appelait pas comme ça au départ, pour faire passer quelque chose de littéraire, mais avec ce côté interactif, on dit aussi ergodique, c'est-à-dire qu'on choisit son propre chemin dans la narration. Donc faire passer ce côté décision du lecteur au sein de la narration, c'est quelque chose qu'ont permis des interfaces qui se rapprochent très, très fort du jeu vidéo actuel, et qu'on a encore un petit peu, par exemple, dans les visual novels maintenant, qui sont finalement les successeurs des histoires interactives des années 70 et 80. Donc ça, c'est un point de vue historique. Maintenant, il y a aussi tout un intérêt, et là, ça rejoint un peu ce que Boris a dit tout à l'heure sur le discours des médias. C'est toujours intéressant de voir ce qu'une forme médiatique, une forme culturelle arrive à dire sur une autre. Ce que le jeu vidéo dit sur la littérature, et inversement, ça nous renseigne un peu sur l'état de... Bah, d'une sorte de lutte de pouvoir, une sorte de lutte de légitimité, ou parfois au contraire un genre de collaboration entre quelque chose qui est perçu comme ancien et légitime, mais peut-être un peu en déclin. Évidemment, c'est une question de perception, hein, ce n'est pas la réalité des chiffres, et quelque chose qui est perçu comme plus nouveau et plus jeune, mais sans doute moins légitime. Donc on a des dynamiques de collaboration, mais aussi d'opposition qui sont très intéressantes et qui renvoient finalement au discours dans la vie de tous les jours, dans les médias et bah, dans ce que rencontrent nos futurs participants et participantes au sein de leur quotidien.
Merci Bruno. J'avais une deuxième question à te poser parce que tu as finalement, pour nous en tout cas, une double casquette, puisque tu es à la fois, tu participes à la fois en tant que membre du Liège Game Lab sur notamment les sujets que tu viens évoquer, mais tu es aussi coordinateur du certificat au sein de la Haute École de la Ville de Liège. Où tu travailles entre autres, et je voulais attirer l'attention sur le fait que en collaboration avec la HEL, finalement, il y aura aussi toute une série de cours qui seront là pour initier à la création, tout en disant évidemment que ce n'est pas un certificat qui va permettre aux gens de devenir des startups incroyables à succès et créer un jeu vidéo du jour au lendemain. On n'a pas du tout la prétention d'apprendre aux gens à créer des jeux vidéo et il y a déjà des écoles qui le font. Mais ceci dit, il nous semble, nous, intéressant que les personnes qui travaillent dans le socio-culturel avec le jeu vidéo aient au moins une idée de comment ça marche derrière l'écran, quoi.
Oui, c'est tout à fait ça. Donc, il y a deux choses qu'on va faire principalement, on va dire, avec les apports de mes collègues de la Haute École. D'une part, comme tu dis, cette initiation à l'aspect technique du jeu vidéo. Hein, on va faire des initiations au graphisme et des initiations au code. Bah, le nom l'indique déjà, ça reste une initiation, mais ça permet toujours dans l'idée que le jeu vidéo est finalement un langage qu'il faut comprendre quand on doit organiser un cours sur le jeu vidéo, une expo sur le jeu vidéo, quand on doit organiser une activité autour du jeu vidéo. Comment faire si on ne sait pas de quoi se compose un jeu vidéo, si on ne sait pas quels sont les principes de base du game design, si on ne sait pas comment s'organise une équipe dans un studio de jeux vidéo. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on va voir et qui vont permettre d'avoir un regard éclairé, on va dire, le regard d'un amateur, mais éclairé sur le jeu vidéo. Et bien sûr aussi, ça c'est quelque chose qui arrive dans des domaines, je pense par exemple à ta propre expérience, Pierre-Yves, où tu as créé et fait créer des jeux vidéo pour des institutions culturelles. Souvent, on est amené avec différents publics à créer des jeux vidéo sans être nécessairement un développeur ou une développeuse. Et dans ce cas-là, bah, il faut mettre en jeu des compétences qui sont techniques et qu'on va essayer d'apprendre, un genre de socle minimal pour pouvoir aussi s'auto-former. Donc ça, c'est le premier côté. Est-ce que tu souhaites que je parle aussi du côté jeux vidéo et pédagogie,
Alors
ou tu veux qu'on y aille pour après?
j'allais y venir, j'allais faire la transition vers ce point, mais je voulais souligner effectivement ce que tu venais de dire, notamment pour un peu faire le lien avec tout ce qu'on a dit jusque-là concernant vraiment les enjeux de légitimité du jeu vidéo. Je pense qu'il est aussi tout à fait important d'œuvrer pour le fait que le jeu vidéo ne soit pas uniquement aux mains de grands acteurs ayant de grands capitaux techniques et symboliques, etc. Mais qu'on puisse aussi participer à la dynamisation du jeu vidéo amateur et le fait qu'on puisse créer ces jeux vidéo pour le plaisir, pour et ou pour des objectifs pédagogiques et ou pour des objectifs de médiation culturelle et ainsi de suite. Donc voilà. Et donc tu parlais d'un socle commun, donc tu me tendais une perche évidemment, puisque avec d'autres, notamment du Louvain Game Lab, tu vas donner une séance intitulée L'éducation aux jeux vidéo, littératie vidéoludique et littératie médiatique. J'imagine que tu voulais m'en dire un mot.
Eh bien, j'en dirais même plus qu'un mot, Pierre-Yves. Cette question de la littératie, ben, on l'a déjà un petit peu abordée, hein. Le fait de savoir créer, ou en tout cas de savoir comment on crée, c'est une forme de littératie numérique et qu'on appellerait littératie vidéoludique. Alors, ce terme de littératie vidéoludique, c'est énormément discuté en ce moment. Donc, c'est le fait de savoir à la fois comprendre un jeu vidéo quand on est récepteur, quand on est joueur, mais aussi il y a une partie de la littératie qui est la littératie de création, ou la littératie de production, qui est bien savoir créer. Évidemment, quand on parle de littératie, c'est-à-dire d'apprentissage, on pense beaucoup au métier des enseignants, qu'on vise aussi au premier chef avec notre certificat. Et bah, pour parler de ça, quoi de mieux que de faire venir soit des enseignants, soit des chercheurs qui s'intéressent au milieu de l'enseignement, comme par exemple, tu l'as dit tout à l'heure, Gaël Gilson, Charlotte Préa, et d'une façon un peu différente, Julien Hanard. Ils viendront bah, témoigner de leur expérience d'utilisation du jeu vidéo dans des contextes d'apprentissage, soit au sein d'un cours, soit au sein d'ateliers plus du type atelier de philosophie, ou soit, et là c'est encore aussi très intéressant pour nous, plus généralement sur la place du jouet, à la fois numérique et non numérique, au sein de l'enseignement. Quelque chose qui est aussi important à savoir là-dessus, c'est que s'il y a des gens parmi vous qui viennent pour créer des jeux vidéo pédagogiques, eh bien, on verra, en dehors du fait d'étudier des jeux vidéo pédagogiques, on apprendra aussi le processus de création qui est derrière, et on verra à quoi il faut faire attention quand on s'engage dans la création d'un jeu vidéo pédagogique ou dans l'utilisation pédagogique d'un jeu vidéo qui existe déjà ou dans le détournement, comme Fanny pourrait vous en parler. Donc, ça fait écho évidemment à des concepts qu'on entend très très souvent, comme la gamification, comme le serious game, comme la ludicisation, les jeux d'apprentissage, etc. Ce sont des choses qui ont évidemment un fort poids médiatique et marketing, et qui jusqu'à un certain point peuvent aider dans la pratique enseignante, mais justement le tout, c'est de trouver ce certain point, ce juste milieu entre plaisir du jeu et capacité d'apprentissage, et c'est de faire dialoguer ces deux domaines, et c'est ce qu'on va faire au cours des séances, qui seront finalement des séances aussi très très touche à tout, où on sera beaucoup dans la création soi-même au format d'atelier. Donc évidemment, il n'y a pas que du contenu ex cathedra, loin de là. On aura aussi beaucoup de mains à la pâte, où le but, ben, c'est d'arriver sur la création de projets par les participants et participantes.
Je crois qu'on tient un titre là d'article scientifique pédagogique entre ex cathedra et main à la pâte, enjeux et société, quelque chose comme ça. Il faudra qu'on y travaille. Je sais pas ce que t'en dis, Bruno.
Oui, il faudrait trouver un jeu de mots, mais sinon,
C'est
ça me
ça.
semble très très
S'il
bien,
n'y a
oui.
pas de jeu de mots, ça va pas. Je vous redis, donc on va arrêter là pour le contenu. Et puis je vais revenir un peu sur les éléments d'organisation formelle et voir si jamais vous avez des questions. Mais donc, je vous redis que sur tout le site internet, vous pouvez retrouver à la fois une description de la formation, de son fonctionnement et surtout l'horaire de la formation. Et vous, si vous souhaitez vous inscrire, vous allez dans conditions d'accès et public cible. Vous voyez si vous répondez aux conditions et vous m'envoyez un mail pour recevoir le formulaire d'inscription. Les informations clés que je vais remettre tout au-dessus, c'est que vous avez donc jusqu'au 4 décembre 2020 pour vous inscrire, pour vous demander le formulaire et pour le remplir, pour me le renvoyer rempli. La formation se donne en synchrone les vendredis de janvier à fin mai 2021, de 13h à 17h, donc les vendredis après-midi, ce qui demande parfois des négociations avec vos employeurs, mais généralement, lorsqu'ils savent que c'est pour une formation, il y a souvent moyen de négocier sur ces horaires. Donc voilà. Je ne l'ai pas mis dans les informations clés, j'aurais dû le mettre. La formation coûte 800 € de frais d'inscription. Encore une fois, je glisse en passant que il y a certaines structures professionnelles qui payent les frais d'inscription pour leurs employés. Donc n'hésitez pas à en discuter dans votre entreprise, dans votre association. Et j'espère que vous n'entendez pas trop pleurer mon bébé derrière, mais vous sachez qu'elle est entre de bonnes mains. Et il y aura donc en plus des cours en présentiel, un SPOC à suivre à distance, c'est-à-dire que vous aurez une plateforme web sur laquelle vous aurez des contenus à suivre et à étudier, que ce soit des articles scientifiques, mais aussi des projets à rendre, des projets de création, des projets à écrire. Et ça, c'est ce qu'on appelle, j'ai pas fait transition, voilà, maintenant j'ai fait transition, et là je peux encore supprimer ceci et refaire transition. Et donc, vous aurez des contenus asynchrones à consulter, à étudier, c'est-à-dire en dehors des heures de cours, mais comme vous le sentez, à votre rythme. Pendant la semaine, il faut prévoir quand même quelques moments dans la semaine avoir à consacrer à ça. Il y aura à chaque fois des contenus qui seront obligatoires, qui seront assez restreints, et des contenus facultatifs pour ceux qui veulent pousser la chose pour aller plus loin. Voilà, ça pourrait être de nature différente et ce ne sera pas nécessairement que des textes à lire. C'est ça que je voulais surtout dire par rapport à ça. Et la dernière chose que je souhaitais vraiment mettre en avant, c'est le fait que lors de votre inscription, vous devez expliquer quel est le projet professionnel dans lequel votre inscription s'inscrit. C'est-à-dire que l'idée est que si vous travaillez déjà ou que si vous souhaitez travailler dans ce domaine socio-culturel, vous ayez une mise en application des compétences que vous allez venir chercher dans ce certificat. Et donc, vous nous expliquez, bah, par exemple, je suis professeur, je souhaiterais utiliser des jeux vidéo dans mon cours, ou je suis animateur culturel, ou je suis journaliste et je veux me spécialiser dans la critique culturelle, je travaille dans l'éducation permanente, dans un centre culturel, dans un musée, dans une bibliothèque, dans une médiathèque, je suis éducateur aux médias et je veux me spécialiser sur le jeu vidéo. Voilà, c'est un peu tous ces domaines-là. Et vous expliquez, bah, je veux mettre en place des ateliers, ou je voudrais... Par exemple, je travaille dans un musée et mon musée veut mettre en place un serious game en partenariat avec un studio de jeux vidéo professionnel et ils ont besoin d'un interlocuteur pour être sûr que le projet se déroule bien et soit formé et soit conscient des enjeux culturels qui se déclinent dans un tel projet. Voilà, vous devez présenter le projet rapidement dans l'inscription. Il peut être en cours de formulation et on peut vous aider à le formuler si vous le souhaitez. Et l'idée, c'est que tout au long de la formation, vous allez réaliser ce projet au sein de votre établissement professionnel et vous aurez une forme de rapport à remettre à l'équipe pédagogique qui, du coup, s'en servira pour attester de votre formation et vous rendre un retour formatif, c'est-à-dire aussi, l'idée, c'est de vous accompagner dans vos acquis professionnels, dans vos compétences. On est vraiment aussi sur un certificat qui s'adresse à des adultes, que ce soit des adultes jeunes ou moins jeunes. On n'est pas du tout sur de la formation. Vous n'allez pas avoir des notes sur 10 ou sur 20. C'est, on juge que vous avez le certificat en fin de formation ou non. Mais généralement, ça se passe très bien puisqu'on vous accompagne toute l'année pour que ça se passe du mieux possible. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que mes amis du Liège Game Lab veulent ajouter quelque chose? Je n'ai pas. Je vois qu'il y a surtout des blagues dans le chat, ce qui est très cool aussi.
Peut-être préciser, Pierre-Yves, physiquement où ça va se faire?
Oui, alors physiquement, si on est en présentiel, ça va être réparti
Oui, bien sûr.
sur trois lieux. Il y a un de ces lieux dont j'ai une photo, c'est le Digital Lab. Transition. C'est le Digital Lab qui est situé rue des Croisiers à Liège et qui est le laboratoire de la province de Liège en collaboration avec l'Université de Liège où le Liège Game Lab généralement fait ses réunions et travaille et où on a une série d'équipements comme des casques de réalité virtuelle, un fond de magazine papier, des anciennes consoles, etc. Donc ce sera probablement des enseignements plus pratiques. Et aussi le Digital Lab sera mis à disposition des étudiants pendant certaines permanences avec des heures qui seront sans doute à discuter avec les inscrits pour que ça arrange un maximum de monde. Et en dehors de ça, les cours pourront se donner à l'Université de Liège. Alors là, les locaux seront à définir, mais ce sera probablement dans le complexe Opéra, puisque c'est là que nous avons l'habitude généralement de donner les cours les plus ex-cathedra, parce que ce sont des anciennes salles de cinéma. On y est très bien, on est bien assis, c'est parfait. Et quand le vidéoprojecteur marche, alors tout marche. Et il y aura aussi probablement des cours à la Haute École de la ville de Liège. Ça, je ne sais pas si tu veux en redire quelque chose là-dessus, Bruno.
Oui, simplement dire que comme elle est composée de plusieurs bâtiments, ce sera le bâtiment Asinel qui se trouve place Saint-Paul, la partie, on va dire, centrale de la Haute École de la ville de Liège.
Soyons concrets, soyons précis. Ce sera le bâtiment A2, 10 bis, 24 couleur bleue. Non, je rigole. Bref, merci Bruno pour ces précisions. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Bruno, tu as même mis les adresses directement dans le chat. Je te remercie. Et j'ai l'impression que ça appelle un mot de la fin de la part de Fanny et de Pierre-Yves qui ont moins parlé, puisque nous avons évidemment nous avons beaucoup trop parlé avec Bruno. Bruno qui se met à clignoter, ce qui est le signe qu'il faut qu'il arrête de parler. Et donc je vais donner la parole dans l'ordre à Pierre-Yves et à Fanny avant de vous souhaiter une bonne soirée.
Alors que dire si ce n'est venez, venez avec nous participer au certificat, ça va être sympa, on va bien s'amuser, on va apprendre beaucoup de choses et je pense que c'est une étape importante. Donc participez à cette étape importante avec nous.
Merci Pierre-Yves.
C'est bon. Du coup, je ne sais pas quoi ajouter de mieux que ça. Mais peut-être que je vais meubler juste une minute pour quand même laisser une dernière chance au chat de poser des questions si vous en avez.
Jolie
Et s'il y
esquive.
a encore quelque chose qui reste un peu clair. Pardon?
J'ai dit belle esquive.
Tout à fait. Mais tout en disant que voilà, il y a encore du temps avant la fin des inscriptions. Qu'il reste encore plein d'occasions de nous contacter. Que d'ici là, probablement qu'on réorganisera des streams, parce que si vous nous suivez un peu, si vous suivez nos activités, vous avez vu que depuis le confinement précédent, on a transféré une partie de nos activités en ligne, forcément comme tout le monde, et une partie de nos cours, de nos co conférences et de nos séminaires ont été diffusés en direct sur Twitch. Donc, on organise parfois des choses sérieuses comme des cours ex cathedra, mais aussi des choses plus légères comme des analyses de jeux en direct sur Twitch, ou ce qu'on appelle des café-thèses, c'est-à-dire des streams où on discute de nos hypothèses de recherche actuelles. Donc voilà, c'est pas directement lié au contenu du certificat, mais quand même, c'est un contenu périphérique qui peut être intéressant pour ceux qui sont intéressés à tout ça. Voilà, j'ai meublé 2 minutes et je vois qu'il n'y a pas d'autres questions.
C'était très bien, Fanny, parce que ça permet effectivement de rappeler, il faut toujours prendre en compte le contexte d'énonciation finalement, c'est ton ta discipline qui t'a rattrapé et redire aux personnes qui débarquent ici que si vous avez raté le début, ce sera sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours et que on peut toujours nous poser des questions par différents moyens, par mail, par les réseaux sociaux, dans les futurs Twitch et moins sous les commentaires des vidéos YouTube, ce serait moins approprié, mais il y a plein de voilà, on me confirme dans l'oreillette que la rediff sera disponible la semaine prochaine. Je vous souhaite donc une excellente soirée à toutes et tous et prenez soin de vous, puisque c'est ce qu'on dit maintenant dans cette période, on peut plus juste dire au revoir, on dit prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, que tout se passe bien. J'espère que vous avez pu aussi avoir un aperçu d'une partie de l'équipe pédagogique. Il y a une autre partie qui se cache encore dans l'ombre, y compris Boris et Bjorn, mais vous pourrez les voir incessamment sous peu. Bonne soirée, salut tout le monde.
Merci d'être
Ouais.
venu et à très
À
bientôt.
bientôt.